Bon, voilà, veuillez pardonner cette voix un peu bizarre. Ça ira mieux dans quelques jours. Prions. Oui, notre Dieu, nous te remercions parce qu'en effet, nous le savons, ton amour est un amour sans fin. Et c'est sur ton amour, Seigneur, que nous nous reposons ce matin. Cet amour que tu nous as témoigné si excellemment, si brillamment en Jésus-Christ. Notre Dieu, nous te prions alors que tu fasses silence en nos cœurs et que ce soit attentif à ton amour que nous écoutions cette prédication et que nous puissions être instruits, nourris, fortifiés par ta grâce, par cette parole de vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
On va faire une première lecture dans la première épître de Pierre, dans 1 Pierre, au chapitre 4. 1 Pierre 4. Les deux premiers versets, et puis après on sautera au verset 12. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Versets 12 à 19. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et nous retournons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Et nous relisons les premiers versets qu'on a vus la dernière fois, et on va aller jusqu'au verset 11. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Plusieurs fois, le Nouveau Testament compare la vie chrétienne à une course. Et le premier verset de notre 12e chapitre nous exhorte à courir avec persévérance ce marathon ou ce demi-marathon qui est devant nous. Mais vous savez bien, en ayant peut-être vous-même pratiqué la course à pied, ou en ayant simplement vu des coureurs passer, des athlètes passer devant vous ou à la télévision, que l'équipement du coureur se réduit au strict minimum. Il doit être le plus léger possible, afin que rien n'encombre ses mouvements. Et nous trouvons ça tout à fait normal. C'est d'une logique enfantine. Pour bien terminer une course, il faut être le plus à l'aise possible. Eh bien, voyez-vous, c'est exactement ce que l'auteur de l'Épître nous dit au début de ce 12e chapitre. Rejetez tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courir avec persévérance dans la carrière ou dans le stade qui est devant nous. Mais même de courir comme ça, en tenue légère, avec des chaussures idéales, n'est pas nécessairement une partie de plaisir. Surtout si la course est longue, qu'elle est parsemée d'obstacles, genre parcours du combattant, où on est mort en passant la ligne d'arrivée. C'est une image. Mais alors, qu'est-ce qui va nous aider à tenir bon, à persévérer pour traverser le mieux possible, pour traverser le mieux possible tous les obstacles et passer la ligne d'arrivée? D'abord, il y a bien entendu le désir de gagner, de terminer premier de la course, ou peut-être déjà de la terminer, ce qui serait un exploit à mon niveau. Ce qui va m'aider à persévérer jusqu'à la fin, c'est aussi tous ceux qui sont venus m'encourager, me soutenir, ma famille, mes amis, tous ces témoins dont il est parlé au premier verset. Dans la course chrétienne, comme vous l'avez compris, les choses se passent de manière très semblable. Seulement, en plus des témoins de la foi, il en est un en qui nous trouvons l'encouragement suprême. Parce que le Seigneur Jésus a remporté la victoire des victoires. Oui, il l'a remportée après qu'il ait lui aussi traversé et vaincu les plus gros obstacles, les plus compliqués à passer. Il a souffert, ça a été hyper dur, son sang a coulé, mais il a gagné. Et il est maintenant assis dans la gloire du ciel, à la droite du trône de la majesté divine. Et c'est donc lui, dans notre passage, que le Saint-Esprit nous invite à considérer et à imiter. Ce regard qu'il nous faut porter sur lui consiste en deux champs de vision. À garder simultanément à l'esprit. Oui, à la fois les souffrances de Jésus qui ont été nécessaires pour remporter la victoire, c'est-à-dire gagner notre salut, en réduisant à néant le péché, le diable et la mort. Donc ça, c'est la première chose à considérer. Et la deuxième, c'est Jésus qui est maintenant dans le ciel, qui intercède pour nous et nous encourage à persévérer. Lui qui fait continuellement reposer sa bénédiction sur son Église. Relisons la fin du chapitre 10 et le tout début du 11e. Souvenez-vous de ces premiers jours. Donc c'est l'auteur de l'épître qui s'adresse à cette église des Hébreux, à ces chrétiens hébreux. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Après que nous ayons assez longuement parcouru le 11e chapitre, ce chapitre des héros de la foi, où nous avons vu des hommes et des femmes appelés par l'Éternel et déterminés à accomplir sa volonté, avec le 12e chapitre, l'auteur de la lettre se tourne vers ses lecteurs, ceux de l'époque, donc ici des Juifs convertis à Jésus-Christ, qui sont déjà passé par beaucoup de tribulations et de persécutions, comme on vient de le lire, en particulier de la part de leurs anciens coreligionnaires. Chers frères et sœurs, chers amis, la vie chrétienne normale, j'entends par là celle qui cherche véritablement à plaire à Dieu, dans tous les domaines de l'existence, celle qui considère que d'avoir été racheté par la mort de Jésus sur la croix, qui signifie qu'on ne s'appartient plus à soi-même. Donc cette vie chrétienne véritable, par laquelle on obtient le témoignage intérieur, et surtout le témoignage de l'Écriture, que nous sommes enfants de Dieu, cette vie-là n'est certainement pas un long fleuve tranquille. Non, la vie chrétienne, telle que Dieu nous l'enseigne dans sa parole, n'est pas vraiment une partie de plaisir. En tout cas pas au sens où on l'entend communément. On trouve notre plaisir en Dieu, n'est-ce pas? Donc ce qui ne veut pas dire que notre bon Père céleste ne nous réserve pas des périodes heureuses, paisibles. Mais ce n'est généralement pas la règle pour ceux qui se donnent entièrement à lui. La vie tout court, celle de tout un chacun, mais notre vie de chrétien en particulier, ne peut pas être un long fleuve tranquille. Et nous ne pouvons et ne devons pas nous attendre à ce qu'elle le soit. Et pourquoi ça ? La première raison est toute simple. C'est que pour Jésus, le Fils de Dieu, qui bien entendu est notre premier modèle, dont l'imitation, notre imitation de lui, est le plus sûr chemin pour plaire à Dieu, eh bien, son pèlerinage terrestre ne l'a pas été à long fleuve tranquille. Mais au contraire, ça a été souvent très difficile. Il est vrai que pour la plus grande tranche de sa vie, la Bible ne nous dit strictement rien. Je pense notamment à sa vie de jeune homme, quand il travaillait avec son père, comme charpentier. En revanche, ce qui est tout à fait clair, c'est que dès qu'il est entré de plein pied dans son ministère, dès qu'il a commencé à se confronter aux juifs religieux de l'époque, à dénoncer leur hypocrisie et se présenter comme leur sauveur, comme le Messie annoncé par les Écritures, les difficultés n'ont fait que de s'accumuler, au point qu'assez rapidement, on a cherché à l'éliminer. Théologiquement, ou dans la simple compréhension de la foi qui nous anime, on comprend assez bien qu'il en ait été comme ça, du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette accumulation de griefs contre lui de la part des Juifs, leur haine de la vérité et leur refus de reconnaître qu'ils avaient besoin de toute urgence d'un sauveur, c'est tout ça qui a conduit les Juifs à préférer que Pilate gracie un meurtrier et fasse mourir le seul homme bon et juste que la terre ait jamais porté. Et donc justement, la Bible le dit bien, qu'il fallait que Jésus meure sur la croix, qu'il était nécessaire que cette haine déchaînée contre lui le conduise, lui le Fils de Dieu, à mourir à notre place. Le juste en rançon pour des injustes. Oui, c'est bien ce que dit l'Écriture sainte. Et nous considérons donc, tout à fait correctement, que pour accomplir la volonté de son Père, il ne pouvait pas en être autrement. La vie de Jésus pour nous sauver, en toute logique, devait être une vie difficile, une vie de souffrance. Donc, où je veux en venir, c'est qu'on comprend très bien ça pour le Seigneur Jésus. Mais pour nous, est-ce que nous le comprenons aussi ? Ou bien pensons-nous, dans une logique un peu semblable, mais cette fois à rebours, que puisque Jésus est mort à notre place, sur la croix, du même coup, toute souffrance, toute difficulté, toute maladie, toute persécution, toute peine, tout combat devrait nous être épargné, puisque Jésus a pris tout ça. Jésus, qui n'a jamais laissé ses disciples ignorants de ce qui allait arriver, a dit cette parole qu'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 à 23, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Alors vous comprenez, ces chrétiens hébreux, à qui cette lettre est adressée, sont parmi les premiers disciples de Jésus. Il y a eu d'autres, bien sûr, avant, mais ils sont parmi les premiers disciples de Jésus à avoir expérimenté, de la même manière que lui, la haine du monde. Et ici, dans ce terme de monde, il nous faut sans doute voir une notion assez large dans laquelle nous pouvons inclure le monde religieux. Parce que c'est lui, le premier, le monde religieux, qui s'est déchaîné contre le Christ et contre son Église. L'intelligence des hommes religieux de l'époque était tellement obscurcie qu'ils pensaient rendre un culte à Dieu en persécutant Jésus et en le condamnant à mort. Mais bien sûr, il n'y a pas que les Juifs à s'être déchaînés contre les premiers chrétiens. Il n'est que de penser à l'acharnement d'un empereur Néron et de bien d'autres. Je fais juste ici une parenthèse pour indiquer que si nous pouvons très bien inclure les Juifs incrédules dans ce terme de monde, un monde hostile à Dieu, tout simplement parce qu'il est hostile à son fils Jésus, à l'opposé, la Bible inclut dans le terme d'Église tous les Juifs qui croient, qui ont embrassé l'Évangile. Je disais donc il y a un instant que si nous sommes des chrétiens véritablement consacrés à Dieu, nous ne devions pas nous attendre à une vie facile. Celle de Jésus ne l'a pas été. Celle de ces chrétiens juifs auxquels cette lettre est adressée non plus. Et nous avons vu, en parcourant la galerie des témoins de la foi, qu'aucun d'entre eux, véritablement, n'a vécu une vie que nous qualifierions d'agréable, de paisible. On peut même dire bien au contraire pour la plupart d'entre eux. Pensez à trois pointures, si j'ose dire. Abraham, Joseph, Moïse. Mais quelle vie ils ont passée, hein ? Alors comprenez bien que ce n'est pas pour vous décourager que je suis en train de dire ça. Mais enfin, je sais bien que vous le savez déjà. Non, c'est même tout le contraire. C'est même tout le contraire. Comme d'ailleurs l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est pour encourager ses lecteurs qu'il leur a fait parcourir comme nous cette galerie des témoins de la foi. Aucun n'a eu une vie facile, mais tous étaient animés d'une même foi, persévérante, obéissante, des hommes et des femmes qui ont eu à cœur, après que Dieu leur eut parlé, d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils avaient compris. Parce qu'ils n'avaient pas tout compris. Ils n'avaient pas toutes les lumières que nous avons, nous, aujourd'hui, en ayant toute la parole de Dieu entre nos mains. Mais on se rend compte que les connaissances relativement limitées que ces héros de la foi avaient leur étaient tellement précieuses, hein, ces connaissances, qu'elles les ont conduits en tout cas aussi loin que nous, et pour certains, bien plus loin, si nous parlons en termes de consécration à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas le tout d'avoir des connaissances bibliques, si ces connaissances nous laissent oisifs, si elles ne sont là que pour nous rassurer, ou bien pire, pour nous donner une fausse sécurité. On peut avoir des connaissances bibliques, puis c'est formidable, je sais tout ça. Si par exemple l'Évangile est un oreiller de paresse sur lequel nous nous vautrons en étant complaisants avec le péché, le nôtre, tout comme celui de notre entourage, celui de l'Église, et bien sûr celui du monde. Donc maintenant, pour faire le joint avec la dernière fois, en 15 jours, on fera un petit joint avec la dernière fois il y a une semaine, mais maintenant on fait un joint avec ce qu'il y a 15 jours. Nous nous souvenons que l'auteur de la lettre s'adresse à des chrétiens découragés. Et même, pour certains, pas loin de retourner en arrière, de retourner aux pratiques judaïques de la loi, pour plaire aux Juifs, et donc ne plus être persécutés par eux. Et alors l'auteur les exhorte, ces chrétiens découragés, à considérer, c'est-à-dire à examiner avec soin celui qui, avant eux, a patiemment supporté une opposition et un mépris invraisemblables. D'ailleurs, de la part de la même caste juive que pour ces chrétiens hébreux. C'est comme si l'auteur leur disait en quelque sorte, regardez le Seigneur Jésus, tout ce qu'il a enduré de la part des pécheurs, de la part des hommes. S'il y en a bien un qui n'aurait jamais mérité un tel traitement, c'est lui, le saint, le juste. Et comment a-t-il réagi à cette haine contre lui? A-t-il reculé? S'est-il enfui? Est-il remonté au ciel sans avoir accompli le ministère pour lequel il avait été envoyé? Non. Pardon. Oula. Il n'a pas reculé. Pardon.
Je crois que je fais juste une petite pause. Hein.
Ah, merci beaucoup. Sympa. Merci. Donc non, il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé parce que sa nourriture était de faire la volonté de Dieu son Père. Et c'est pour ça qu'il est venu. Pour accomplir tout ce que l'Écriture avait d'avance annoncé de lui. Et tout ça, toute cette opposition et cette méchanceté de la part des hommes qui allaient conduire Jésus au supplice de la croix, c'est pour nous qu'il l'a fait, pour notre salut, pour que nous n'ayons pas à subir éternellement le courroux de Dieu. Et nous devons maintenant bien considérer que si Jésus est mort sur la croix à cause de notre péché, ce n'est pas pour nous assurer quelques dizaines d'années tranquilles sur la terre. Non. Mais pour nous assurer les choses les plus belles et les plus glorieuses, un bonheur que nous ne pouvons même pas imaginer, qui durera toujours quand le Seigneur Jésus reviendra pour juger le monde et qui nous prendra avec lui dans son ciel de gloire. C'est ce qu'avaient parfaitement compris les témoins de la foi de ce 11e chapitre. Alors c'est vrai, vous vous en rappelez, que certains de ces témoins, de ces héros, ont remporté par la foi de grandes victoires. Mais de loin pas tous. D'autres, et ils sont nombreux, ont beaucoup souffert, horriblement souffert pour certains. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ce qui peut alors paraître paradoxal, sans doute parce que nous n'avons pas suffisamment conscience de la gravité du péché dans notre propre vie, mais aussi parce que notre connaissance de Dieu est trop limitée, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que non seulement Dieu accepte que des épreuves nous tombent dessus et que les difficultés et la souffrance puissent souvent être le lot des chrétiens, mais dans tout ça, je suis en train de parler du paradoxe, dans tout ça, le Saint-Esprit nous dit que, loin d'être un signe d'abandon de notre Père Céleste, ou de jugement, eh bien non, les épreuves, les épreuves et les difficultés de la vie et la souffrance qui en découle, tout ça, c'est Dieu qui le veut pour notre bien. Mes amis, j'ai bien conscience, en disant ça, que je ne vous délivre pas vraiment un message attrayant. Attrayant pour la chair, attrayant pour le vieil homme qui sommeille en nous. Mais si on se souvient de ce que Jésus a lui-même, ce que Jésus lui-même a prêché, il me semble que je suis dans le tir, en fait. Alors, quel est ce bien? Eh bien, c'est celui d'être petit à petit rendu semblable à Jésus-Christ, notre divin modèle, celui qui a dû tout endurer pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et que nous puissions, dès aujourd'hui, par la foi, expérimenter son amour, sa bonté, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et même sa protection, pas sa protection des épreuves et des souffrances, puisque celles-ci sont nécessaires, mais sa protection au travers des épreuves, en sorte que les souffrances, même les plus dures, ne pourront jamais annuler ses promesses à notre égard. Visiblement, les épreuves, les souffrances dont il est question dans ce passage, passage d'aujourd'hui, se situe dans un contexte de persécution. Et donc le péché dont il est parlé ici, quand il est dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché », c'est à la fois, me semble-t-il, une invitation, une exhortation à tenir bon quand nous sommes confrontés à la persécution, ce que nous-mêmes, jusqu'à présent, n'avons pas vraiment eu à expérimenter. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu, mais ça va encore. Donc, tenir bon jusqu'au bout, jusqu'au sang de la blessure qui peut nous être infligée, et pourquoi pas, même jusqu'à la mort. Et là, l'auteur, dans la fin de la galerie des héros de la foi, vous vous en rappelez peut-être, n'a pas caché qu'ils sont nombreux, les enfants de Dieu, à être appelés à vivre de telles extrémités, à mourir pour leur foi, comme on le sait aujourd'hui. Ils sont nombreux, ceux qui meurent pour leur foi aujourd'hui, encore. Donc il me semble voir ici d'abord tout à fait clairement un appel à tenir bon contre le péché qui peut se déverser sur les chrétiens, sur l'Église, en particulier sous la forme de la persécution. Mais, comme il est bien question aussi, au verset 5, d'un châtiment de Dieu, d'une correction qu'il applique à ses enfants bien-aimés, nous sommes obligés de voir également là, non plus une résistance contre un péché qui nous serait extérieur, qui s'abattrait sur nous pour nous faire, si possible, abandonner la foi, renier notre Seigneur Jésus-Christ, non. En deuxième lieu, il nous faut voir aussi notre propre péché, notre propre lenteur. Notre propre lenteur à nous confier en toutes circonstances dans notre bon Père céleste. Notre lenteur à faire du Seigneur Jésus-Christ celui qui est l'objet de tout notre amour, de toute notre reconnaissance, de toute notre confiance, bien plus que ne le peuvent être les personnes qui nous entourent, qui nous sont les plus proches sur la terre, les époux, les membres de notre famille, parents, enfants, ou encore des amis intimes. Encore ici, c'est Jésus qui a les paroles les plus radicales. Quand il dit dans Luc 14, 26 et 27, ces mots très forts, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Donc là, j'ai parlé de la lenteur qui pouvait être la nôtre de nous rallier entièrement à notre maître, qui est aussi notre frère. Mais on n'a rien dit des péchés de toutes sortes que nous laissons cohabiter dans notre cœur et qui pourrissent notre existence. Alors vous entendez ici le Saint-Esprit qui nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » En y réfléchissant, je me demande si nous serons capables, le jour où ça arrivera, un jour peut-être proche, si nous serons capables d'apposer une résistance vigoureuse à la persécution, c'est-à-dire en ne capitulant pas, en tenant ferme dans la foi, peut-être jusqu'au sang. Oui, en serons-nous capables si nous avons été tellement complaisants avec le péché qui était dans nos membres? Bien sûr, en aucune manière, nous devons compter sur nos propres forces. Mais nous reposer entièrement sur le Seigneur, sur sa force, sur sa protection, sur sa bonté envers nous. Mais sa force, sa protection et sa bonté envers nous, ne pouvons-nous pas déjà les expérimenter dans notre lutte quotidienne contre notre propre péché? Nous y exerçons-nous vraiment? J'ai écouté vendredi soir, avant-hier soir, la belle prédication que vous a donnée dimanche dernier Timothée. C'est un autre genre, hein? Par rapport à aujourd'hui, je veux dire. Et je souhaiterais redire quelque chose sur lequel, à un moment donné, Timothée a insisté. C'est par rapport au fils aîné de la parabole. Fils aîné que nous incarnons tous à différents niveaux, même à notre corps défendant. Tant ça fait partie de notre condition humaine de chercher à nous reposer sur nous-mêmes plutôt que sur le Seigneur. C'est que nos meilleures œuvres, notre obéissance la plus stricte et la plus parfaite, notre moralité irréprochable, comme celle du fils aîné, non, rien venant de nous-mêmes ne nous permettra jamais de gagner notre salut, de gagner la faveur de Dieu. Ça pourrait même être tout le contraire, si nous ne sommes pas habités par les dispositions de cœur qui conviennent. Et la première d'entre elles, de ces bonnes dispositions, c'est de vouloir accomplir la volonté de Dieu sans rien en attendre en retour, ici sur la terre. En tout cas, ne rien en attendre pour nous-mêmes, comme si le Seigneur nous était redevable. Nous allons maintenant aborder quelque chose de tout à fait intéressant. La parabole du fils prodigue que Timothée a appelée la parabole des deux fils perdus, ou encore la parabole du père prodigue. Cette parabole, en ce qui concerne le père, donc là, on se focalise sur le père maintenant, ne nous parle que de sa grâce totalement imméritée. Sa bonté tellement insondable, tellement énorme. Bien sûr, elle est très explicite, cette parabole, en ce qui concerne la patience du Père, sa générosité. Mais c'est surtout ce pardon gratuit du Père, plein de bonté et de miséricorde. C'est de ça que cette parabole nous parle. C'est tout à fait vrai. Et je peux comprendre si on compare les deux prédications, donc celle de dimanche dernier et celle d'aujourd'hui, on peut avoir l'impression, mais c'est qu'une impression, qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Que ce n'est plus du père de la parabole dont nous parlons ce matin. Hein? Dans un sens, c'est vrai. Parce que Jésus, en racontant cette histoire, donc cette parabole, n'a fait ressortir qu'un seul trait. C'est ça la parabole, en fait ressortir un seul trait, généralement. Hein? Qu'une seule facette ou deux de la bonté de son père dans les cieux. C'est aussi frappant de voir dans cette histoire l'attitude du père envers ses deux fils, où on voit que pour l'un et l'autre, il les laisse accomplir leur vie comme ils l'ont décidé. Hein? Sans doute pour pouvoir mieux les accueillir une fois qu'ils se seront cassés la figure. Et donc maintenant, notre texte d'Hébreu, où vous l'avez vu, il est aussi question du Père, de notre Père céleste, qui est sans doute rigoureusement le même Père que celui de la parabole. Mais si notre texte parle des enfants de Dieu, de ceux qui sont déjà rentrés à la maison et qui ont déjà connu la joie de l'amour du Père et qui peuvent la connaître tous les jours par la foi. Et donc là, dans notre passage d'aujourd'hui, nous commençons à nous rendre compte que la vie chrétienne va nous conduire à des sommets. Pourquoi je dis ça? Mais tout simplement parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la volonté du Père, c'est que nous soyons rendus capables, pas capables, semblables à Jésus-Christ. Nous soyons rendus semblables au Christ. Et à cause de ce que nous sommes, je veux dire dans la chair, à cause de cette lenteur qui nous caractérise, dont nous avons touché un mot il y a un moment, parce que Dieu nous aime vraiment. Il est obligé d'user avec nous de méthodes, on va dire, viriles. Le verset 6 est on ne peut plus clair. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il ne nous frappe pas avec plaisir pour se faire du bien à lui-même ou parce qu'il manque de patience, mais parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut nous faire monter dans ces hauteurs si belles des perfections que connaissent seulement ceux qui se donnent entièrement à lui par la foi dans un chemin d'obéissance. On va conclure. C'est sûr, comme vous l'avez remarqué, dans le passage que nous avons aujourd'hui, nous ne trouvons, nous ne voyons aucune place pour un évangile de la prospérité. Ou simplement un évangile facile qui nous garantirait une vie aux circonstances heureuses et paisibles. Il y en a de ces circonstances-là, merci Seigneur. Mais beaucoup de celles qu'il nous faut traverser sont plutôt difficiles et incompréhensibles. Et c'est justement là que notre bon Père Céleste veut nous encourager. Je dois dire, il nous attend au contour, là où c'est difficile, et il nous encourage. Parce que c'est toujours le même Père, le même que celui de la parabole. Et nous pouvons donc nous réjouir, parce que ce Père-là, si bon, qui nous a accueillis si généreusement, comme ses deux fils, l'un et l'autre perdus, eh bien notre Père Céleste désire se faire connaître à nous bien plus que nous ne le connaissons aujourd'hui. Et ça, ça ne peut pas se faire autrement, en dehors des épreuves et de la souffrance. Ça ne peut pas se faire. Alors réjouissons-nous. Parce que notre texte nous dit que toutes ces choses dont nous nous passerions volontiers, faut le dire, que nous cherchons parfois à éviter au maximum, sans nous rendre compte qu'elles sont là pour notre bien. Les souffrances de l'épreuve et de la persécution, quand tout semble se liguer contre nous, eh bien que tout ça nous fera connaître plus parfaitement celui qui est venu nous sauver, Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.